sais pas s'il y a des gens qui n'ont jamais eu des moments de grande lutte spirituelle dans le cœur, de grand choix comme ça. Si vous ne vivez pas ça, soit vous êtes un saint, hein, vous êtes déjà arrivé au nom là, ou soit vous êtes mort.
Hein, avec ça, c'est mieux, d'accord. Ça va, voilà. D'accord. Soit vous êtes un saint, ou soit vous êtes déjà mort. Mais je pense que la plupart des gens, ils luttent. Et moi, j'étais là à Londres et je luttais dans mon cœur. Et j'ai dit, mais est-ce que je vais entrer dans cette église? Hein, c'est comme une grosse église historique. Hein. Et après, la cloche commençait à sonner, boum, boum. Je pensais à Ernest Hemingway, pour qui sonne le glas, là. J'ai dit, mais ça, c'est le... Et je suis entré dans l'église, là, crispé. Et c'était la liturgie. Voilà, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tac, 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 tac. Tout le reste, prêtre, tout. Et là, j'étais là. Et à l'époque, j'avais des cheveux longs, j'étais un peu entre Baba Cool et punk. C'était un peu le temps des Sex Pistols et de Deep Purple. Et donc là, j'étais entre les deux. J'avais pas, et donc j'avais coupé. Avant, j'étais un peu hippie, et donc j'avais des cheveux jusqu'ici. Et donc là, je voulais garder un peu mes cheveux, mais c'était un peu, voilà, c'était pas à la mode. Et donc j'ai coupé tout court jusqu'ici. Juste la première partie, c'était presque chauve, avec les cheveux longs derrière, bonne boucle d'oreille, c'était grotesque. Hein. Avec mon nez au milieu, vraiment, ça effrayait. Et j'étais à Londres, je travaillais au noir, j'avais toute ma vie, voilà, bien rangé. Et tout d'un coup, Jésus est venu déranger tout cela. C'est mon frère qui m'avait parlé de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a à faire à me parler de Jésus? Ça, c'est des histoires. Et donc là, c'est lui qui m'avait poussé à dire, voilà, il faut voir s'il y a une église. Et donc moi, j'étais devant cette église anglicane, un peu tiraillé. Et donc après la messe ou le culte, le prêtre, il est venu vers moi, ou le pasteur, le vicaire, on les appelle les vicaires en Angleterre. Il m'a dit, ça va? Parce qu'il m'avait pas vu avant, hein. J'étais un peu étranger, j'étais un peu mal placé aussi dans cette église. Ça va? Et j'ai dit, ah, normalement, il faut dire, oui, ça va, hein, non, on n'a pas le choix. Ça va, ouais, ça va. Mais j'ai pas dit ça va. Non, j'en avais marre. J'étais vraiment sur le point d'exploser dans ma vie. Et donc, j'ai dit, non, ça va pas du tout. Je pense que je suis devenu schizophrène. J'ai dit, il y a une partie de moi qui veut vraiment continuer comme je suis, bien dans ma vie, désordonnée avec tout ce que je faisais. Et une autre partie qui, je sais pas, il y a comme quelque chose qui est en train de naître en moi qui est pour Jésus. Et là, comme Jean-Luc a fait, là, je vais prier pour vous. Alors, j'ai dit, mais c'est bien, il va prier pour moi. Il dit, oui, il faut juste aller juste derrière, là, j'ai une petite salle. Donc là, je suis entré dans sa salle, hein, dans sa pièce de prière. J'étais là, assis. Et il y avait lui, sa femme, parce que les vicaires se marient, hein, dans l'église anglicane, hein, c'est le tuyau, hein. Et donc là, il était avec sa femme et l'assistante paroissiale. J'étais là. Moi, j'étais assis, moi. Et là, j'ai dit, oh, il va prier pour moi. Et tout d'un coup, il s'est pointé le doigt contre moi et il dit, toi, prie. Mais qu'est-ce que tu ferais? Si maintenant, si je vous dis, voilà, toi Jean-Luc, oh là c'est facile pour toi. Choisis quelqu'un. Je dis, toi prie. Qu'est-ce que je dis? Et là, dans un premier instant, je me rappelle, je dis, oh, je peux dire le Notre Père, parce que je l'ai appris quand j'avais 5 ans. Notre Père. J'ai dit, non, je vais pas faire ça, je veux faire quelque chose d'honnête. Et donc, il y avait une sorte de silence qui durait, ça pesait. Et après, je dis, voilà, Seigneur, aide-moi. Je voulais vraiment sortir ce qui était dans mes tripes. Donc, j'ai dit, voilà. Je savais pas ce qui allait sortir. Au secours! C'était ma première prière vraie de toute ma vie. Au secours! Au secours! Aide-moi. Et là, c'était une vraie prière. Et quand j'ai prié cette prière, là, je m'attendais à rien, hein. Tu pries une prière, ça, c'était mes tripes qui sortaient, c'était l'angoisse, c'était cette lutte, c'était toutes les grandes questions de la vie, mais au secours! Et là, quand j'ai lancé ça comme une sorte de missile, j'étais ignorant, hein, je connaissais pas la Bible, je connaissais rien. Hein. Et donc, au secours. Et Dieu, il a donné la prière comme cadeau à tous les hommes. Hein, ça, c'est merveilleux, non? Que tu sois dans l'église, pas dans l'église, que tu sois Père Noël, que tu sois bouddhiste, hindouiste, musulman, quand même, n'importe qui. Je pense que Dieu, comme il a donné des poumons, comme il a donné des cœurs, il a donné cette capacité de prier. Au secours. C'était quelque chose de très basique. Au secours. Et là, je m'attendais à rien, mais le ciel s'est ouvert. C'est comme s'il y avait une flèche qui a ouvert le ciel. Et j'ai senti comme une vague d'amour physique. Les poils sur mes mains commençaient à se dresser. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a mis dans le thé, ce vicaire-là? Qu'est-ce qu'il a mis là? Il a mis un peu de LSD? Qu'est-ce qu'il a mis là? Qu'est-ce qu'il a mis? Et après, il y avait une autre vague, encore plus forte. Et encore une autre vague, et c'était comme l'amour pur, c'est pas un amour qui descendait sur moi, qui me pénétrait. Et j'ai dit, mais s'il y a encore un amour comme ça qui tombe, comme une autre vague, parce que c'était comme lourd, c'était comme une lourdeur. Bon, c'était invisible, c'était drôle ce que je raconte. Soit j'étais vraiment schizophrénique, et je suis parti de l'autre côté, là, et ils allaient appeler l'ambulance. Mais c'était pas ça, c'était réel. Et j'ai dit, mais si ça arrive encore, je vais mourir. Et encore. Et j'ai explosé à l'intérieur de moi-même. C'est tout ce que je peux dire. J'ai commencé à pleurer. Mais j'étais pas triste. C'était des larmes de libération. Je sais pas comment dire. Libération. Naissance. Nouvelle saison. Nouveau commencement. Transformation. Guérison. Je sais pas, mais c'était total. Paf. Peut-être pour d'autres personnes, ça prend 20 ans. C'est super parce que Dieu, il a ses manières de travailler avec les gens. Mais pour moi, tac. Le gros marteau. Paf. Il m'a tapé de son amour, là. Et j'ai explosé à l'intérieur. Et j'étais rempli de sa vie. Ma vie a changé dans un instant, à ce moment-là. Et après, j'ai appris, là, et c'est le Saint-Esprit, ça. Parce qu'on connaît tout le monde des cousins du bon Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde, voilà, je suis cousin du bon Dieu. Tout le monde. On n'a pas besoin de prêcher, tout le monde. Bon, qu'on soit, même si on est athée, on a quand même un petit, bon, Dieu peut être là. Mais, si on parle de Jésus, ça c'est un peu plus compliqué, Jésus. Surtout si on le libère de la crèche, hein, parce qu'on aime le petit Jésus à Noël. Ou même à Pâques, le Jésus crucifié. Bon, c'est vrai, moi je crois à la force, la croix, bien sûr, le sang versé. Mais ça s'arrête pas là. Jésus ressuscité, qui vaincre la mort, qui nous donne la force. Il reste pas constamment crucifié. Il est fidèle, vérité, sur son cheval blanc, marchant dans la victoire. Ressuscité, la mort est vaincue. C'est ça, Jésus a triomphé de la mort. Ça, c'est le vrai miracle, hein, de la foi, de croire à la résurrection. Vous pouvez croire à tout, mais si vous croyez pas à la résurrection, il n'y a pas de la puissance, là. Ça, c'est notre spécialité en tant que chrétien. On croit à la résurrection. On croit que la vie est vaincue. Pas juste philosophiquement. Mais on croit parce que quelqu'un a vaincu la mort devant les yeux de 500 personnes. Et même devant les yeux de notre foi. Moi, je sais que Jésus est ressuscité. Mais même ça, tout ça, toute cette réalité, toute la réalité de Jésus qui est invisible, est entrée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus. Mais si vous commencez à parler du Saint-Esprit aux gens, le Saint-Esprit, on a un cousin de bon Dieu, ça va. Même le Père, ça va. Jésus, bon, ça va à Noël, un petit peu à Pâques, mais on ne sait pas, résurrection, là. Mais si vous dites le Saint-Esprit, vis en moi. Le Saint-Esprit, bon, c'est aussi Dieu, cette Trinité. Mais c'est ça qui rend le christianisme actuel. Et c'est là où je suis né de nouveau, là. Le Saint-Esprit est entré en moi, j'étais transformé. Et j'ai quitté cette pièce. Et c'était vraiment authentique parce que autour de moi, il y avait des foules de Londres. Tu sais, qui dansent dans la rue, ces gens qui nous énervent. comme Jean-Paul Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. c'est vraiment les autres. Mince, ils m'énervent. Ça, c'est naturel. Ça, c'est, on est tous comme ça. Et même nos enfants, nos époux nous énervent. C'est naturel. Bien sûr, de temps en temps, on est toujours follement amoureux. La plupart, on n'est pas là, ça va. Et donc là, c'est... J'étais devant ces étrangers et j'avais un amour pour ces gens. Je voulais les embrasser. Je voulais les embrasser. Voilà. Mais j'ai dit, mais ça vient d'où ça? Et c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est tout simplement le christianisme. Tu vois, on peut baratiner tout ce qu'on veut. On peut dire, voilà, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, voilà, les Grecs, les Juifs, et ça, c'est important, tout à sa place. La rédemption, les grandes paroles, l'évangélisation, faut faire ceci, mais finalement, c'est tout simple. C'est que Dieu vous donne cette capacité d'aimer, qui n'est pas juste une émotion, d'accord, mais c'est une volonté d'aimer, de servir, de vous donner pour l'autre, de pardonner. Et ça marche. Et surtout, de vous aimer. De vous aimer. Dire, oh, mais ça, c'est pas compliqué. Si, c'est très, très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Parce qu'on se déteste quelque part, caché. On pense pas qu'on est grand-chose. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, Saint-Esprit est venu sur Jésus lors de son baptême, et Jésus a entendu une voix du ciel. Il dit, le Saint-Esprit est venu comme une colombe, il a entendu, tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et là, il dit, mais si Jésus, fils de Dieu, parfait, sans péché, a besoin d'être encouragé, tu es aimé, moi, mille fois plus. Et c'est le Saint-Esprit qui a véhiculé cette voix du ciel. Hein, ça restait pas juste théorie, mais ça est entré en lui. Tu es mon fils, Robert. Voilà, tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et là, j'aime moi-même, hein, j'aime pas mon péché et toutes les mauvaises parties, mais ça a été enlevé en Jésus. Christ a enlevé tout ce péché. Bon, de temps en temps, hein, je le cherche parce que je m'ennuie, mais bon, non. Quand je m'ennuie, c'est rare que je m'ennuie. Normalement, je suis tellement passionné pour Jésus. Je suis en train de faire des trucs en Afrique avec des pygmées, évangéliser, tendre le gazon avec amour chez moi. Tu vois, je suis tellement une vie tellement passionnante que j'ai pas le temps de pécher. En train de lire la Bible, chanter. C'est merveilleux. Mais de temps en temps, je m'ennuie et donc je pêche. Je passe le temps. Et après, je dis pardon, Seigneur. Et même le péché, ça m'aide parce que ça m'approche de Dieu. Je vois qu'il me pardonne, qu'il m'aime. Et je dis, oh, mais j'ai presque envie de pécher pour revenir. Mais il faut pas faire ça. Mais presque. Le péché n'est pas un problème. Le péché, ce n'est qu'un problème quand vous le gardez pour vous-même. Même si vous péchez 10 000 fois, vous pouvez revenir à Dieu, se repentir. Revenir. Emmener tout à la lumière. On est tout à la lumière, comme un bébé, quand on change un bébé. Il est là. Tout est là, voilà. Je suis sale. Chut, ah, nouvelle couche, tac. On est lavé par le sang de Jésus. Et donc le Saint-Esprit est entré en moi. Et cette prière, au secours. J'ai prié cette prière, je dirais, c'était ma prière pour 10 années. Les premières 10 années de ma vie chrétienne. Parce que j'avais tellement besoin d'avoir la grâce de Dieu sur ma vie, d'avoir cet amour. Et bien sûr, on a des fuites, hein. Ça passe par mon orteil grand, hein. Tout cet amour que j'ai reçu après une semaine, j'avais besoin d'être rempli de nouveau, après de colmater toutes les brèches. Parce que c'est ça, il faut constamment revenir à Dieu pour être rempli de l'amour, du Saint-Esprit. Alors là, je vous partage cette prière, hein. Si vous savez pas comment prier, parce que même la prochaine fois que je vais prêcher, je pense que je vais prêcher sur la prière, mais je vous donne la béaba de la prière, là. Ma première prière, et c'est toujours avec moi, au secours. Et c'est très théologique. Après, quand j'ai commencé à étudier et faire tout ça, hein, c'est il y a 30 ans, hein, après j'ai le temps pour mes cheveux de devenir bien gris et tout le reste. Et donc, j'ai appris que le mot en grec, même, en grec. Ouh, ça vole haut ce matin. Est-ce que quelqu'un connaît? Je suis sûr qu'il y a les intellectuels ici qui connaissent. Qu'est-ce que c'est le mot en grec pour le consolateur quand on parle du Saint? Je vous enverrai un autre consolateur. Voilà, paraclète. Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire en grec, paraclète? Non, mais ça va, je ne vais pas vous gêner. Qui sait? Mais il va me laisser y répondre. Merci Jean-Luc. C'est para, c'est à côté, d'accord, à côté. Et clète, ça vient de cléo, qui est d'appeler. Et donc le Saint-Esprit, c'est celui que tu appelles. Oui, viens à côté de moi. Et donc ça, c'est pas mal. Tu appelles à côté, au secours. Donc même dans mon enfance spirituelle, hein, c'était très théologique de crier au secours. Parce que si, comme la plupart des gens, ça va, vous avez besoin d'aide, non, ça va, pas besoin d'aide. Vous voyez les gens, tout en eux crient, j'ai besoin d'aide, on dit, vous voulez que j'aide, non, non, ça va. Et donc là, si, ça va, vous n'avez pas besoin d'aide. Et donc le paraclète, celui qui console, il n'a pas besoin de venir, parce que tu ne fais pas appel à lui, donc voilà. Comme on dit, bon, j'allais dire démerdez-vous, mais débrouillez-vous. Mais c'est ce qu'on fait. On n'a pas besoin de se débrouiller tout seul dans ce monde. C'est vachement dur de faire ça. C'est vraiment dur de se débrouiller tout seul dans ce monde. Aide-moi. Ah, il faut l'humilité pour faire ça. Il faut l'humilité. Et c'est ça, quelquefois, de... En 10 années, je dis, mais Seigneur, donne-moi toujours cette humilité des commencements, que je puisse toujours crier de mes tripes, aide-moi Seigneur. Et après, le consolateur va venir. Parce qu'il s'appelle le consolateur. Ça veut dire, il vient nous consoler. Parce qu'on a besoin d'être consolé dans ce monde. Il y a la mort, il y a la tristesse, il y a des maladies, il y a des déceptions, il y a des échecs. Mais tout ça, c'est... Même si ça semble être grande chose, face à l'éternité, face à l'amour, face à la victoire que nous avons chantée ce matin, face à tout ça, c'est rien. C'est rien, honnêtement. Même les pires choses qui nous arrivent, c'est rien comparé à la gloire et la victoire et l'éternité qui est là, cette vie éternelle. Et donc, première prière, au secours. D'accord? Au secours. Et après, deuxième 10 années, hein, je vais vous donner 30 années de vie en 3 prières. Hein. Deuxième 10 années, j'ai appris à prier ceci. Et là, il faut trouver Marie, hein, de la Bible. Mère de Jésus. Luc chapitre 1. C'est moi, j'aime beaucoup Marie. Hein. Je suis un fan de Marie. Et... C'est que la plupart des évangéliques, ils sont fans de l'apôtre Paul, ou de l'apôtre Pierre, ou je sais pas, ou même de la Bible, je sais pas. Mais moi, je suis fan de Marie, parce que je dis, mais elle s'appelait Myriam, hein, son vrai nom, hein. Marie, c'est un peu le nom grec qu'on lui donne et tout ça. Mais Myriam, c'est pour ça, j'ai une petite Myriam, hein. Myriam. Et donc, Marie, bon, je lui donne le nom habituel. Marie, elle est là en Luc 1, 28, hein. Et, tu sais, elle passe l'aspirateur chez elle, tu vois, elle fait la vaisselle, tu vois. Et tout d'un coup, elle voit un ange, mais il faut le faire. Je vous salue Marie. Ave Maria. Hail Mary. Mais il n'a pas dit ça, tu vois. Et il ne parlait pas toutes ces langues-là. Parce que Marie, elle parlait araméen. Et c'est un peu comme l'hébreu. Et donc ce que l'ange a dit, c'est simple ce que l'ange a dit. Il a dit shalom. Vous savez, shalom, shalom. Et ça c'est super parce que tout l'Ancien Testament, si tu veux résumer tout l'Ancien Testament, c'est shalom. C'est toutes les lois, toutes les règles pour comment bien vivre sa vie, comment avoir une bonne santé, comment faire de l'économie, comment gérer les disputes, comment faire la loi. Toute la loi, toute notre base de loi est là. Mais tout ça, toute cette vie holistique, toute cette entité, s'appelle shalom. C'est une sorte d'alliance de rien qui ne manque, rien qui ne soit volé, avoir, être entier, être bien dans sa peau. C'est tout ça, toutes les manières d'être bien dans sa peau. Comment se marier, comment élever la famille, comment manger, comment avoir un bon régime. Tout est là, hein, tout est là dans l'Ancien Testament. Bien sûr, c'était adapté à l'époque pour les juifs de Bédouins, hein, il faut pas à la lettre dire, ah, ça veut dire ça maintenant que je dois absolument construire une petite barrière autour de mon toit. Mais ça veut dire que peut-être il faut pas laisser le gaz chez toi pour que ça explose, tu vois. Tout était, mais toute cette réalité de vie, shalom, est devenue chère. Et le shalom, la paix ultime, est devenue chère au mari. Et c'est ça qu'on, souvent les gens vont dire, mais comment est-ce que Marie a conçu? Comment est-ce que Marie a conçu? Comment est-ce qu'une vierge peut concevoir par la parole? Shalom, paf, c'est entré dans son oreille, tchao! Hein, c'est une vraie expérience là, tchao! Et après, ça est descendu là, ouh! Et c'est comme ça qu'on devient chrétien aussi. C'est que quelque chose entre dans notre oreille, une parole de vie. Shalom! Et après, oh, j'ai quelque chose ici. Mais c'est un miracle, parce que je connais pas d'homme, c'est pas humain, c'est surnaturel. Et bien sûr, on n'est pas exactement comme Marie, heureusement. Vous n'allez pas aller rentrer chez vous, et bah, 9 mois après, une vraie bébé va sortir, non. Mais vous allez produire Christ. Christ va sortir de votre vie. Vous allez rayonner Christ. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime Marie, parce qu'elle était ouverte à ça. Elle était porteuse de Jésus, le premier de l'histoire comme ça, de porter Jésus comme ça. Première chrétienne, on peut dire, si on veut. Mais je pense qu'il y avait quand même quelques... Ouais, bon, je laisse ça là, sinon je vais tomber dans les profondeurs de la théologie. Et donc, elle se demande, elle est troublée par cette salutation. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué ça, 29, troublée par cette parole. Elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Shalom. Moi, je pense qu'elle est tombée par terre quand elle a entendu ça. Elle a vu l'ange. Et nous, on pense que c'était normal pour elle de voir l'ange. Hein. Tu veux t'assister, voilà. Mais je pense que quand il dit shalom, paf, elle a dû trembler. J'imagine toutes sortes de choses. Peut-être que ce n'était pas comme ça, mais moi, j'aime bien imaginer qu'elle était visitée. Trembler, comme moi, si ça m'est arrivé de dire au secours, et je sens, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis sûr que là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et après, l'ange parle d'un roi, de régner, d'avoir une vie éternelle, d'un règne qui n'aura jamais de fin, un règne d'amour, un règne de justice, un règne de paix, tout ce qui était promis pour Israël, mais qui est maintenant élargi pour toutes les nations et pour nous. Et il dit, tu sais, tu vas enfanter un roi dans ta vie. Il va régner, vers 33 pour ceux qui suivent. Il régnera éternellement. Son règne n'aura pas de fin. C'est une vie sans fin. Ça, c'est le rêve de nous tous. Un amour sans fin. Tu sais, tous nos amours terminent. Hein, la mort, paf, est-ce que c'est la fin? À quoi bon la vie? C'est l'absurdité, selon Camus. Juste, tous nos efforts, si c'est la fin... Le tombeau, mais pourquoi faire un effort? Parce que c'est une absurdité la vie. Si ça finit comme ça, paf! Mais non! Là, Jésus, il dit, je vais régner éternellement, sans fin. Mon amour va dépasser le tombeau. Mon amour va tout régler. Je vais tout reconstituer. Je vais tout guérir. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni larmes, ni souffrance dans l'éternité. Et je dis, mais il faut la foi pour croire ça, bien sûr. Mais là, tu vois tout ça qui était en train de grandir en Marie. Un règne sans fin, un règne d'amour. Et là, j'ai dit, c'est ça mon ministère chrétien aussi. Je suis loin d'être Marie. Mais moi, je veux que le règne de Dieu soit là, dans mon cœur. Qu'il règne dans mon cœur, Jésus-Christ. Et je veux prier, oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne en moi et autour de moi, ce règne d'amour et de paix. Et donc, ça, c'était ma deuxième prière. Vous voulez ça, que Jésus règne, qu'il commence à mettre un peu de, comment je peux dire, d'ordre dans nos vies. Et donc voilà, la prière de Marie. Qu'est-ce qu'elle a dit quand il a dit tout ça? Elle a dit, mais comment cela? Verset 34. Comment cela? Comment, Seigneur? Comment cela se produira-t-il? Puisque je connais pas d'homme. Il n'y a pas de solution humaine. Et je vais vous dire, pour ce monde, on peut faire de tout ce qu'on veut. Et moi, je suis pour l'intelligence, hein. On fait un effort, on va essayer de collaborer. Mais il n'y a pas des solutions humaines pour régler la grande question de la mort, de l'absence, de la souffrance. Il n'y a pas des solutions humaines pour faire régner l'amour dans ce monde et dans l'au-delà. On peut avoir des philosophies, on peut avoir l'ONU, on peut avoir de l'argent. Mais ça donne pas la vraie solution. Il y a une solution surnaturelle. Il n'y a pas une solution humaine. Et même pour ma famille, même pour mes enfants, même pour mon boulot, même pour payer cette facture, bon, je peux me débrouiller tout seul. Mais il y a une solution surnaturelle. Et ça, c'est la foi en Jésus-Christ qui marche, même pour les choses de ce monde. Et donc là, je vous donne le deuxième prière. Comment, Seigneur? Comment? Comment? Comment, Seigneur? Et vous pouvez penser, même pendant que je parle, à une situation réelle qui vous concerne. Comment est-ce que je vais faire telle et telle chose? Et donc vous portez ça comme une prière. Et moi, pendant des années, je porte ces prières. Souvent, on pense que la prière, c'est dire à Dieu tout ce qu'il doit faire pour nous. Mais quelquefois, c'est d'attendre. C'est comme si on a des œufs en nous. Des œufs, comme là. Et ce sont nos rêves. Ce sont nos désirs, nos attentes. Et ces rêves ont besoin de chaleur. Ces rêves ont besoin d'une grande poule qui s'assit sur nous. Et je dis, mais comment, Seigneur, est-ce que je vais réaliser mes rêves? Ah, vous avez besoin d'une grande poule qui vous chauffe. Une grande poule qui fait éclore toute cette réalité de vos rêves. Et donc voilà, elle vous prie comment et quelque chose se passe. Marie, elle prie. Elle dit à l'ange, comment cela se produirait-il puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, écoutez bien, le Saint-Esprit, encore lui, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ça la grosse poule, hein. Moi, j'ai besoin que la puissance du Saint me couvre de son ombre, qu'il reste sur moi, qu'il chauffe mon cœur et qu'il fasse éclore mes rêves. Depuis 30 ans, depuis 20 ans, comment, Seigneur, comment est-ce qu'on peut venir en France? J'ai fait du stop pour venir en France. Et maintenant, bon, il y a 5 bases d'horizon. J'ai pu passer la main, il y a un château blanc, tu vois, mais je passe devant ce panier, moi, j'avais pas des mécènes, j'avais pas des amis, quelqu'un qui, oh, je veux un château, oh, je te l'achète. Je connaissais pas d'homme, mais c'était un œuf en moi. Et des œufs peuvent grandir, hein, il faut oser. J'ai expérimenté ces choses, c'est pas juste la théorie, là, c'est le Saint-Esprit peut venir nous couvrir de son ombre. Et on a besoin de cette chaleur pour réaliser nos rêves, pour faire éclore les visions et les œufs que Dieu a mis en nous. Comme Marie a donné naissance à Jésus. Nous, on va donner naissance spirituellement ou pour les choses du règne de Jésus, pas littéralement Jésus, mais elle a fait littéralement. Waouh, chapeau Marie. Et donc ça, c'est deux prières que je vous ai données. Au secours, aide-moi. Comment? Et toutes ces deux prières font appel au Saint-Esprit. Donc ça fait 20 ans, hein, avec aide-moi, comment? Je suis toujours en train de les apprendre. Mais depuis 10 années, j'ai une troisième qui vient. Waouh, une troisième. Et cette troisième prière, même Jean-Luc, il m'a dévancé avec ça, c'est super, ça confirme un peu. Mais c'est en Ézéchiel 37. Et Ézéchiel 37, c'est on est dans les profondeurs de l'Ancien Testament là, hein. Je suis sûr que on n'est pas tellement au courant à Ézéchiel, hein. C'est les prophètes à longue barbe, dans Israël, les prophètes et tout ça. Mais moi, si vous avez le temps, régalez-vous d'Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, tout ça. C'est tellement bien. Et Ézéchiel 37, c'est extraordinaire parce que c'est une prophétie d'Ézéchiel où en vision, là, il est transporté dans une vallée d'ossements. C'est un peu comme si tu te transportes quelqu'un à Verdun. C'est quand ils ont les ossuaires et ils voient tous les ossements autour. Ah, mince! Et c'est une sorte de cataclysme. C'est terrible, la situation. Et donc, il est dans, et c'est pour parler prophétiquement d'Israël. Et quand on voit que même, bon, plusieurs, une prophétie, ça, il y a plusieurs cycles de réalisation d'un côté dans l'histoire. Mais quand je lis Ézéchiel 37, je pense à la Shoah, à tout ce qu'Israël a subi aussi, quand il y avait Hitler, les chambres à gaz, Auschwitz, ou même on voit tous ces corps dans les charges, dans les charnières, dans les charniers, dans les charniers, et c'est terrible. Et c'était comme si Ézéchiel, même dans, il y a 2000 ans là, même qu'il était, il voyait certaines choses comme ça. Mais après, il voit une résurrection d'une nation. Et il est appelé à prophétiser aux ossements. Et après, il y a la chair qui vient sur les ossements. Et ils reprennent vie. Et il y a une grande armée. Et donc, c'est la résurrection d'une nation même. Incroyable. Ça a eu lieu. Mais bien sûr, au-delà d'Israël, ça parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une image de la victoire contre la mort. C'est une image aussi de la victoire contre toutes nos désolations, contre toutes nos stérilités, contre toutes nos aridités. Et donc voilà, c'est juste le contexte. Mais Ézéchiel, il est transporté dans un vallée d'ossements. Et dans une vallée d'ossements. Et ils étaient très nombreux, ces ossements, à la surface de la vallée, et très secs. Et après, il dit, il y a une question. Je ne sais pas si vous avez des situations de sécheresse autour de vous. Moi, je pense, même en France, on est dans une situation de sécheresse spirituelle. Quand je vois autour de moi combien de personnes ont vraiment envie de connaître Jésus et de parler de grandes questions de la vie et de pratiquer un amour pour Jésus, je dis, waouh, on est presque dans une vallée d'ossements. Et Dieu le Père, il dit à Ézéchiel, il dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Donc si je vous dis, mais en France, toutes les jeunes, toutes les moins jeunes, toutes les personnes âgées, tous les gens autour de nous, est-ce qu'ils vont juste se scléroser, aller gentiment vers l'amour, espérant qu'ils sont cousins de bon Dieu et que voilà, ça va tout d'un coup, comme la potion magique d'Astérix, leur donner la force quand ils se réveillent dans le ciel. Même s'ils ont fait des bêtises, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs péchés et toutes les incrédulités qu'ils ont, de quoi ils se sont gavés toute leur vie? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Et donc, il n'y a pas juste de solution magique. Et il dit, est-ce que ces os pourront revivre? Est-ce qu'on peut voir un réveil en France? Est-ce qu'on peut voir un réveil en France? Pas juste, oh oui, 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 mais réellement. Est-ce qu'à Wavrin, ah, je vais être plus, est-ce que dans cette église, c'est déjà bien, hein? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Pourront-ils revivre? Et après, Ézéchiel, il répond, il dit, mais c'est toi qui le sais, pas moi. Ah, tiens, il est suisse ce gars-là, il s'engage pas. C'est toi qui le sais. D'accord, c'est toi qui le sais, Seigneur. Et donc, il y a deux phases dans la vie d'Ézéchiel maintenant. Premièrement, Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Ah, super ministère ça. Hein? Tu as toute cette vallée d'ossements secs. Et il faut parler à ces eaux. Et c'est ce que j'ai fait en France pour 30 ans, honnêtement. Hein? Et bon, pas ce matin. C'est le réveil ce matin, bien sûr. Vous êtes tous là, remplis de vie. Et, ah, super là. Mais moi, j'ai passé ma vie, j'ai un ministère de prédicateur aux ossements desséchés, là. C'est incroyable. 30 années, allez, écoutez la parole de l'Éternel. C'est ce qu'Ézéchiel a dû faire. Écoutez la parole de l'Éternel. Et c'est ce que nous avons tous fait. On écoute, on prêche. Et c'est un bon ministère, ça. Tu dois commencer quelque part, c'est pas le réveil. C'est les gens, ils parlent en Afrique ou en Corée, oh, c'est super. Mais ici, c'est une vallée d'ossements desséchés. L'Europe, c'est comme ça. Mais c'est bien de dire, voilà, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements secs, écoutez la parole de l'Éternel. Et donc, ils prêchent. Et avec le temps, il y a un petit frémissement. Waouh, un frémissement! Est-ce que vous avez des frémissements ce matin? Alléluia! Un frémissement là! Un frémissement ici! Oh, super! Je vais écrire un livre! Comment j'ai vécu un frémissement? Voilà, ça va être vendu! Et donc, nous, on est tellement contents des frémissements quand les ossements commencent à se regrouper. Ah, l'unité! Oh, l'unité, mais c'est l'unité des ossements, quelquefois! Tu sais, moi, l'unité, on est ensemble, c'est super. Ouais, mais vous êtes les ossements morts ensemble. Tu vois, et non, moi, je suis pour l'unité, mais c'est super. Il y a l'unité, il y a les frémissements. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatais même qu'il y avait des nerfs. Ah, il y a un nerf sur eux. La chair se met à pousser. Waouh, il y a un peu de chair. Un peu d'humanité. Tu sais, un peu d'humanité dans l'église. Quel miracle! Waouh! Un peu d'humanité. Donc, nous, on est tellement extraterrestres. On est tellement bizarres, nous. Et quand les gens trouvent un peu d'humanité, un peu d'amour, tu sais, vous allez à la messe ou les protestants, hein, je mets tout le monde dans le même sac. On est bizarre quelquefois. Bon, pas ici, bien sûr, parce que vous allez me chasser, mais. Tu sais, quelqu'un de normal qui vient, c'est terrible. Parce que, mais bon, on est content d'avoir un peu de nerf, un peu de chair, parce qu'on a bien travaillé. Et il dit, voilà, la chair se met à pousser, la peau est recouvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et donc, phase B, et c'est là où ça devient intéressant, et je vais terminer, n'ayez pas peur, j'essaie de m'échapper de mon message, ça dure, ah, aide-moi. Il me dit, prophétise et parle, non aux ossements maintenant, mais prophétise et parle à l'esprit. Ah, c'est ça que je veux. Seigneur, donne-moi encore 10 années, donne-moi encore 10 années de ministère, pour que je puisse prophétiser à l'esprit, pour la France. Pour cette région. Ça, on a connu. On est dans la fédération, moi et Jean-Luc, de la fédération des prédicateurs des ossements desséchés. Hein, super fédération. Mais on va créer une nouvelle fédération, je l'instaure aujourd'hui. La fédération des pasteurs et des prédicateurs à l'esprit. Et une nouvelle saison. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, oh, je peux parler à l'esprit maintenant. Esprit, encore le Saint-Esprit, parce qu'on vous prie. Moi, c'est lui, c'est Saint-Esprit. Tu es toute la réalité de Jésus, toute la réalité de Dieu. Esprit, écoutez bien, viens. Viens. Ça, c'est ma troisième prière. Viens. Et ça, je le prie là avec mes lèvres, mais là, c'est ici. Viens. Viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. Ah, c'est ça que je veux voir. Pas juste la forme de religion, pas juste un peu de peau, mais les gens qui se tiennent sur leurs pieds. C'est pas qui l'a dit, un grand évêque de Lyon qui dit la gloire de Dieu, Irénée, Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. D'accord, c'est debout, debout. Mais debout, debout. C'est ça la vie chrétienne, c'est une vie d'homme et de femme debout. Voilà, fier, pas orgueilleux, mais voilà, on sait en qui on a cru. Debout, pas craintif, pas, mais debout. Et debout dans toute la société, debout dans les milieux économiques, debout dans le sport, la culture, debout dans la vie, debout dans la vie, pas juste accroupi dans l'église, mais debout dans la vie. Parce que tout le monde peut être accroupi dans l'église, mais debout dans la vie. Jésus marche dans la vie. Et donc là, l'esprit vient en eux. C'est ça qu'il nous faut. La réalité de Jésus. Pas la théorie. Jésus, les sandales, la barbe, on connaît. Mais Jésus qui vit en moi. Je suis né de nouveau. Il y a une force d'amour en moi. Il y a quelque chose en moi. L'esprit vint en eux. Ils reprirent vie. Et se tient sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. J'aime bien la dernière phrase là. Parce que Dieu, s'il avait dit c'est une armée, moi j'aurais été content. Ah, une armée, ça c'est déjà des milliers de personnes, une armée. Mais là, il dit c'est une grande armée. Waouh! Waouh! Ça c'est super! Une grande armée! Waouh! Mais après, il dit c'est une très grande armée. Et je dis là, ça me dépasse maintenant, Seigneur. Mais là, Dieu dit, c'est un très, très grande armée. C'est pas ici ce matin, je voulais même. Mais moi, je crois, et ça, c'est ma prière, viens, viens. Parce que la vision de Dieu, c'est une très grande armée. Non, c'est une très, très grande armée. Et autour de nous, les gens, ils connaissent rien. Ils sont dans leur train-train, leur boulot et tout ça. Et je dis, mais comment cela, Seigneur? C'est impossible, je ne peux pas le faire. Donner un traité, vite, vite. Non, 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 ce n'est pas ça. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et là, je trouve une prière là. Viens, viens des quatre vents. Viens, souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts qui revivent. Alors voilà, au secours, comment? Viens. Et là, il faut que je prie maintenant. Mais pour vous ce matin, hein, peut-être on peut juste fermer les yeux et de dire, voilà Seigneur, peut-être vous voulez prier toutes ces trois prières. Et donc, je vous donne une opportunité. Là, tout simple, dans quelques moments, je vais juste faire une prière au secours. Et peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites au secours. Et moi, je vais prier que le Saint-Esprit vienne sur vous. D'accord. Et donc, pendant que moi je prie, vous pouvez dire au secours dans votre cœur et un petit amen à la fin. On n'a pas besoin toujours du bruit pour toucher le cœur de Dieu. Et donc, Seigneur, je suis venu ici et même moi, Seigneur, j'essaie que je prie au secours. Aide-moi. Consolateur. Consolateur. Au secours. Remplis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, je te demande de venir et de toucher tous les foyers ici, tous les cœurs, là où il y a un cri de cœur ce matin, là où il y a quelque chose qui sort des tripes. Viens, Saint-Esprit. Établis chacun dans la foi. Établis chacun dans une réalité de Dieu, pas juste la théorie ou la culture chrétienne, mais une vraie relation avec toi, Jésus. Et donc, Seigneur, je veux vivre une vraie relation avec toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et la deuxième prière, c'est la prière de Marie, là. Voilà, devant les projets de vie, devant mon avenir. Comment? Quels sont vos comment ce matin? Comment je vais payer mes factures? Comment je vais bosser? Comment je vais faire telle et telle chose? Mais peut-être il n'y a pas trop de solutions humaines. Je ne suis pas assez pistonné. Mais là, je vous donne une bonne piston ce matin, le Saint-Esprit. Hein. On va être pistonné par le Saint-Esprit maintenant. Seigneur, tu vois qui je suis. Donc je te demande, Seigneur, comment est-ce que je vais faire toutes ces choses? Comment, Seigneur? Comment réaliser mes rêves? Comment? Entends la réponse de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra. Viens, Saint-Esprit. Touche les cœurs maintenant. Donne cette foi. Viens, Saint-Esprit, comme une grande poule. Et chauffe les rêves. Que la glace fonde au nom de Jésus. Et que les rêves naissent et éclorent. Saint-Esprit, viens. Couvre chacun ici par ton ombre. Et la troisième prière pour terminer. Oh Seigneur, tu vois cette vallée d'ossements. Tu vois même mon cœur qui est quelquefois comme une vallée d'ossements. Mais tu vois la France, tu vois l'Europe. Tu vois les gens, ils ne savent pas à quel saint se vouer, Seigneur. Il y a la religion et la discussion, il y a beaucoup de solutions, mais qui ne sont pas vraiment des solutions. Et donc, Seigneur, devant toute cette... De même une église qui est tellement tiède, Seigneur. Et une église qui où il y a beaucoup de bonnes... d'efforts, Seigneur, beaucoup de bonnes choses, mais après tant d'années, on est juste rassemblés dans l'unité de la stérilité. Et Seigneur, il faut quelque chose d'autre. Et on ne peut rien faire nous-mêmes. Mais Seigneur... Nous voulons retrouver une prière. Nous voulons retrouver une collaboration avec toi. Et je veux vraiment semer cette prière. Et donc, Seigneur, viens. Viens. Viens, viens, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur ce pays. Souffle sur cette région. Souffle sur cette église, Seigneur. Souffle sur cette église qui a fait tant pour l'unité, qui a fait tant pour rassembler, qui a fait tant pour mettre de la chair et les nerfs, et tout est préparé, Seigneur. Mais Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur. Pas juste une petite gorgée, mais le Saint-Esprit qui va attirer des quatre vents une très, très grande armée, Seigneur. Que nous vivions ce réveil en France. Viens, Seigneur, viens en nous. Et donc, Seigneur, scelle toutes ces paroles dans nos cœurs ce matin, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Et donc, bon dimanche, je pense.